France Musique.
Bonjour à tous, bon réveil avec France Musique. Merci d'avoir choisi France Musique. Je suis très heureuse de vous accompagner ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Notre invité Clément Mao-Takatch, qui est chef d'orchestre, pianiste et compositeur, sera en ligne avec nous pour évoquer le maintien de son festival Terraqué à Carnac, qui aura lieu cet été. Dans 8 minutes, nous serons en ligne avec Michel Aurier, directeur de la musique et de la création à Radio France. Il a une excellente nouvelle à nous annoncer. Assister au concert vous manque? Eh bien, restez, vous ne serez pas déçus. 8h30, le journal d'Olivier Denré et Classique Info avec Sophia Anastasio. À 8h40, un tour d'horizon des initiatives autour de la fête de la musique ce week-end. Dans sa chronique, Guillaume Thion fera un tour de France des festivals, des initiatives proposées par les salles de concert et maisons d'opéra pour ouvrir à nouveau leurs portes au public. Ça va être un peu le thème de la journée.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Gabriel Oliveira Guyon.
Bienvenue à vous dans Musique Matin. Que diriez-vous de commencer cette matinée avec Jean-Sébastien Bach?
Thank you.
sur France Musique, les bourrées 1 et 2 de la suite anglaise numéro 2 en la mineur BWV 807 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Jean-Frédéric Neuburger, pianiste que vous pourrez voir ou revoir en concert sur le site de la Fondation Louis Vuitton ce soir. Un récital enregistré le 5 décembre dernier à la Fondation Vuitton qui vous est donc offert comme si vous y étiez. C'est à partir de 20h30. 8h05, bon réveil à vous. C'est tout de suite l'heure de la chronique de Guillaume Thion, comme chaque vendredi. Alors, bonjour Guillaume, de quel spectacle à voir en ligne allez-vous nous parler ce matin ?
Bonjour Gabriel, d'aucun d'entre eux justement. Aujourd'hui, nous allons évoquer le retour des spectacles sur scène, les vraies scènes, les plateaux, avec des cintres au-dessus, mais surtout du public devant, pas des concerts à huis clos. À partir du 22 juin, toute la France, hors Guyane et Mayotte, pourra reprendre le chemin des salles, avec bien sûr quelques accommodements dus à la situation sanitaire. Ne faites pas ceux qui n'êtes pas au courant. Il va donc falloir dans les salles baliser les sens de circulation pour que personne ne se tamponne, disposer du gel un peu partout, fermer les foyers, les bars, les buvettes, réguler les toilettes. Les spectateurs devront devoir porter des masques et se trouver à une distance d'un mètre chacun, ce qui signifie être au centre d'un carré de 4 mètres carrés. Mais on ne sait toujours pas si on doit mesurer à partir de l'épaule ou du nez la distance avec le spectateur suivant, ce qui change pas mal au niveau du métrage et des fauteuils vides à intercaler. Il faut ajouter à ces paramètres l'interdiction de se réunir à plus de 10 personnes. En fait, on peut tout à fait attendre ses enfants à 2000 devant une école, ça s'appelle une sortie de classe. Si l'on est 10 devant un concert, c'est un cluster. Et dès qu'on dit cluster, on imagine tout de suite un truc très grave. Cette caractéristique touche surtout les concerts en plein air et on plaint les musiciens qui aimeraient se produire à l'extérieur, mais plus personne ne joue à l'extérieur de nos jours. On verra donc bien ce qui se passera pour la fête de la musique dimanche. Vous l'avez compris, dans cet environnement assez incompréhensible, les salles ne sachant trop quoi organiser et ayant depuis longtemps bazardé leur saison, préfèrent rester fermées et attendre septembre pour rouvrir en espérant que tout aille mieux. C'est sans compter quelques initiatives intéressantes, comme celle qui se tient à partir de lundi en Lorraine, où l'Opéra de Nancy joue chaque soir un programme avec des invités en plein air dans les jardins du Goethe-Institut ou en salle à l'Opéra, allant jusqu'à une belle jauge de 400 places. C'est aussi ce qui se produit à l'Auditorium de Dijon cette semaine. Depuis mercredi et jusqu'au 27 juin, Philippe Cassard, qu'on ne présente plus sur cette station, et le violoniste David Grimal ont organisé un festival de musique de chambre devant une jauge réduite de 150 places. Programme de ce vendredi, Mendelssohn et Brahms, trio numéro 2 et quatuor avec piano. Mais aussi, ce soir, c'est à Toulouse, à la Halle aux Grains, la reprise de l'Orchestre National du Capitole qui a invité Renaud Capuçon, l'immarcessible Renaud Capuçon qui dirigera et jouera du bac avant le retour de Bertrand Chamaillou la semaine prochaine dans sa ville. Ces concerts sont principalement motivés par une envie de jouer et non par les recettes de billetterie peu profuses qu'ils vont engendrer, d'autant qu'ils sont gratuits. Pour montrer qu'on peut tourner la page du Covid tout en restant masqué, spectateurs, allez-y, il faut vous y précipiter.
Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique. En partenariat avec le quotidien Libération, à vendredi prochain. Eh bien restons dans le sujet, en parlant concert avec public, une bonne nouvelle et émouvante pourrait-on dire. Ça reprend également du côté de la Maison de la Radio, en exclusivité sur France Musique, tout de suite l'annonce officielle de la reprise des concerts avec public. Bonjour Michel Aurier.
Oui, bonjour Gabriel, ça va ?
Ça va très bien, je vous remercie. Vous êtes directeur de la musique et de la création à Radio France. Hier a été validée en commission la reprise des concerts, ici donc à Radio France, avec public. Pour les musiciens, la direction de la musique, la radio, le public, que Radio France rouvre ses portes au public, c'est un symbole très fort, Michel Aurier.
Oui, oui, c'est un symbole très fort et puis c'est vraiment un moment qu'on attendait depuis pas mal de temps, donc... On sait maintenant qu'on peut accueillir du public. Alors évidemment, c'est un petit peu différent de ce qu'on a connu par le passé. Hein, et on n'est pas encore au retour à pleine jauge.
Mais, comment ça va se passer concrètement ?
On rouvre à demi-jauge, c'est-à-dire qu'on va accueillir les spectateurs sur un fauteuil sur deux. Mm-hmm. Et voilà, les spectateurs vont pouvoir reprendre, le public va pouvoir reprendre le chemin de la Maison de la Radio.
Des masques obligatoires pour le public ?
Voilà, il faudra être masqué, il faut rentrer en rentrant dans la Maison de la Radio, il y a une prise de température par caméra thermique, etc. Enfin, il y a quand même tout un dispositif qui est le dispositif de sanitaire qu'on met en place un peu partout. Mais on retourne au concert, on s'assied dans cette salle et
on savoure.
Et voilà.
Excellente nouvelle. Donc ces concerts qui s'intitulent dans cette série intitulée Le Temps Retrouvé ont repris le 6 juin dernier. Il en reste donc quelques-uns, 5, avec public, donc à partir de ce jeudi 25 juin. Un concert dirigé par François-Xavier Roth. Et des billets à des tarifs très attractifs, 10 euros pour ce redémarrage.
Oui, parce que c'est un format qui est un format court. Sur des ensembles qui sont des ensembles à la fois de l'Orchestre National de France ou de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, mais sur des formats réduits. Et puis on a voulu surtout que ce soit un moment de célébration où on ait le plaisir de se retrouver ensemble et que ça donne aussi à l'occasion pour que ça donne l'occasion à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre le chemin de la radio, d'écouter une information en public, de le faire très simplement. Voilà.
Michel Laurier, en vous entendant là, donc, on peut accéder à la billetterie pour ces concerts, Le Temps Retrouvé?
Oui, absolument. Oui, parce que l'ensemble des billets sera à vendre sur le site de Radio France.
Maison de la Radio. Maison de la Radio. .fr. Tous les concerts seront désormais accessibles au public ou seulement certains? Je pense par exemple au concert de musique de chambre.
Non, c'est une bonne question parce qu'on ne le fait que sur les concerts des formations musicales.
D'accord, donc l'Orchestre National de France.
Et de l'ENF, oui, absolument.
Et le Philharmonique. Ces concerts, évidemment, pour les auditeurs qui n'auront pas leur place ou qui ne vivent pas en région parisienne, continuent d'être diffusés en direct sur France Musique et Arte Concerts, donc à partir de 20h. C'est une excellente nouvelle, en tout cas, Michel Laurier. Merci beaucoup pour cette information. Tous les autres concerts, évidemment, les informations sont à retrouver sur France Musique et sur le site maisondelaradio.fr. Un petit mot peut-être sur la rentrée, Michel Laurier. Les concerts dès septembre vont reprendre aussi avec la saison prévue initialement?
On ne peut pas imaginer le contraire. C'est vrai, on est dans les starting blocks, on a vraiment envie de retrouver vraiment l'intégralité du public, on a envie de retrouver l'intégralité du programme qu'on a concocté pour la rentrée. Et voilà, j'espère qu'on va continuer à faire reculer cet horrible virus et qu'on va pouvoir tous se retrouver normalement à partir du mois de septembre.
Un grand merci Michel Laurier pour cette très bonne nouvelle. Le public peut donc revenir à Radio France pour ses différents concerts. Très belle journée Michel Laurier et merci, bravo.
Très belle journée à vous.
Au revoir.
À bientôt, merci.
La danse égyptienne tirée des Nuits égyptiennes, l'opus 50 d'Anton Arensky, interprété par l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, un chef qui dirigera jeudi prochain, le 25 juin, l'Orchestre National de France, en direct depuis l'auditorium de la Maison de la Radio, diffusé évidemment sur France Musique dès 20h. Et donc, c'est officiel, ça y est, des concerts à la Maison de la Radio, avec public, toutes les informations sur notre site francemusique.fr. Thank you. sur France Musique à 8h17, un extrait d'un disque tout récemment paru chez Erato, Barricade, paru le 29 mai dernier. Et à l'instant, donc, cette cinquième pièce du sixième ordre du deuxième livre des pièces de clavecin de François Couperin, Les Barricades Mystérieuses, Thomas Dunford à l'archilute et Jean Rondeau au clavecin, deux musiciens que vous entendrez très bientôt dans la dernière émission Génération France Musique, le live avant l'été. C'est donc la semaine prochaine, le 27 juin, à partir de 16h. Tous les matins, vous le savez, l'une des voix de France Musique vient nous réveiller, nous dévoiler un coup de cœur. Et ce matin, c'est au tour de Florian Royer que vous entendez l'été. Il nous laisse un message depuis Cayenne, en Guyane.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Bonjour à vous qui écoutez France Musique. Bonjour à vous aussi qui faites France Musique. Un bonjour d'outre-Atlantique. Ce matin, j'ai souhaité faire dans la douceur avec un compositeur de la fin du 19e siècle, début 20e, Paul Delmay. Une des figures du cabaret du Chat Noir qui a mis en musique des dizaines de romances à succès. Elle s'intitule La Petite Église, En Voix de Fleurs et celle que nous allons écouter, Fermons nos rideaux. Preuve de la popularité de ce Paul Delmay, ses œuvres ont commencé à être enregistrées de son vivant, il y a donc plus de 120 ans, et ont continué à l'être pendant 60 ans jusqu'à ce que la vague yéyé les rende obsolètes. La version de ce matin date de la fin des années 40. Elle est chantée par André Pasdok, un fils de l'aristocratie russe qui a fui la révolution avec sa famille. Pasdok a enregistré beaucoup de tangos chantés et il a fait assez peu d'incursions dans la chanson intimiste. C'est regrettable, car il sert très bien cette musique de Paul Delmay avec un texte signé Maurice Bouquet. Alors Maurice Bouquet, parlons-en aussi. Il fut député, sénateur et même ministre, et à côté de cela, il se piquait de versifier, avec succès, puisqu'il a été mis en musique par Camille Saint-Saëns. Une dernière chose avant de commencer, la guitare. On dirait du Django Reinhardt, ça sonne comme du Django Reinhardt, c'est la même époque que Django Reinhardt, mais ce n'est pas Django. À vrai dire, on ne sait pas qui c'est, le disque d'origine ne porte aucune indication, c'est peut-être Henri Crolla, on ne sait pas. En tout cas, voici une petite romance sans prétention, parfaite pour un réveil en douceur. Fermons nos rideaux.
Fermons nos rideaux, tout un jour encore je veux. Ainsi que Pétrarque auprès de sa laure, te faire la cour. Mais j'entends quelqu'un frapper à la porte, quel coup de marteau. Laissons-le frapper, le diable l'emporte, fermons. Si c'est le cadeau que m'apporte Rose, les lys feraient cueillir. Le dernier lilas, la première rose, qu'importe les lys. Puisque j'ai la fleur de ta gorge nue, adieu les cadeaux. Rose s'en ira comme elle est venue. Fermons nos rideaux. Si c'est le collier qu'apporte l'orfèvre de corail et d'or, il n'est de corail qu'au pli de ta lèvre, il n'est de trésor quand tes yeux profonds.
Le choix de Florian Royer, André Pasdok dans cette chanson « Fermons nos rideaux ». Florian Royer, donc, celui qui nous a suggéré d'écouter cette pièce, grand amateur de jazz, vous le retrouverez cet été pour son émission « Les Bad Boys du Jazz » saison 2, diffusée tous les dimanches du mois d'août de 18h à 19h sur France Musique, évidemment. Thank you. Le concert des nations dirigé par Jordi Savall dans l'ouverture du Bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Lully, une comédie-ballet créée le 14 octobre 1670 au château de Chambord par la troupe de Molière devant le roi Louis XIV. Vendredi 19 juin, je vous souhaite une très belle matinée. Merci d'écouter France Musique. 8h25, c'est l'heure de rejoindre Suzanne Gervais pour sa chronique La musique connectée. Bonjour Suzanne.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
On danse ce matin dans votre chronique, ou plutôt on cherche des endroits où danser.
Des endroits où s'exercer, oui, la période est ingrate, c'est peu de le dire pour les artistes. Un confinement, arrêt des répétitions, annulation des spectacles, incertitude quant à la reprise des activités. Je pense que je vais m'arrêter là dans l'énumération, on l'a compris. L'agenda des compagnies, et notamment des compagnies de danse, est un vaste gruyère suisse. Mais malgré le manque de dates et l'incertitude générale, les danseurs recommencent à répéter. C'est une nécessité. Alors le hic, le bémol, c'est que les lieux de répétition rouvrent avec parcimonie, dans des conditions sanitaires strictes et sont littéralement pris d'assaut. Déjà qu'en temps normal, l'accès aux studios et lieux de répétition est un problème, surtout dans les métropoles comme Paris. Mais en ce moment, c'est carrément le pompon, la curée, la ruée vers le moindre espace disponible pour danser. Du coup, Anne Sauvage, la directrice de l'Atelier de Paris et du Centre de Développement Chorégraphique National, qui est basé à la Cartoucherie de Vincennes, a eu une riche idée, créer une plateforme sur Internet pour permettre aux danseurs de s'exercer. Cette plateforme, elle s'appelle Studio D et répertorie les lieux disponibles partout en France pour les entraînements et les répétitions. C'est une sorte de Airbnb professionnel de la danse, si vous voulez. Sauf que le but, bien sûr, ce n'est pas de faire de l'argent. C'est totalement gratuit. Voilà une initiative solidaire à laquelle ont déjà répondu plusieurs établissements parisiens. Les théâtres du Carreau du Temple, du Châtelet, les centres chorégraphiques nationaux, aussi des conservatoires qui ont un studio ou une salle de libre. Pour l'instant, on a 35 lieux studios qui sont déjà répertoriés, un chiffre qui augmente tous les jours, et sur le site, chacun des lieux de répétition est décrit, sa surface, sa hauteur sous plafond, le type de sol, son équipement, avec ou sans barre, avec ou sans miroir, etc. Les compagnies peuvent s'enregistrer gratuitement, je le répète, consulter la liste des disponibilités et envoyer une requête, et puis après le lieu répond, l'adresse à connaître. C'est donc studiod-danse.fr.
Merci beaucoup Suzanne, je ne sais pas si vous dansez, mais en tout cas je vous souhaite un bon week-end.
Et merci Gabriel.
Bon week-end. Un ballet pour illustrer vos propos Suzanne, un ballet qui sera donné cet hiver à Bastille à Paris du 10 décembre au 2 janvier 2021. La Bayadère de Rudolf Nureyev, l'un des joyaux du répertoire du ballet de l'Opéra National de Paris, musique de Minkus. Thank you.
La variation numéro 2 Allegro de la Bayadère, musique de Minkus, et ici interprétée par l'orchestre de l'opéra de Sofia, dirigé par Boris Spassov.
Musique Matin, Gabriel Olivier Aguillon.
Notre invité à partir de 8h45, le pianiste, chef d'orchestre et compositeur Clément Mao Takatch. Son festival Terraqué à Carnac aura lieu à la fin de l'été. Nous évoquerons ensemble également le problème de l'intermittence, un statut selon le chef qui est à revoir. Rendez-vous à 8h45. La nouveauté de disque qui sort aujourd'hui, Inner Voice, du saxophoniste baryton Mathieu Delage. Nous en écouterons un extrait, bien sûr. Et à 8h40, Classique Info, votre rendez-vous avec Sofia Anastasio. Vous écoutez France Musique, il est 8h30. 8h30, c'est l'heure du journal présenté par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. 150 propositions pour 150 citoyens après 9 mois de travail. Les Français tirés au sort qui participent à la Convention sur le climat ont enfin dévoilé les mesures qu'ils préconisent pour réduire dans notre pays les émissions de gaz à effet de serre. Ils vont maintenant voter, ce qui déterminera un ordre de priorité d'ici dimanche soir. La suite sera parlementaire ou référendaire. Une révision de la Constitution est en tout cas envisagée, Véronique Reberotte.
Il s'agit d'acter la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution. En faire, je cite, un objectif de la République. Les citoyens proposent d'en modifier l'article 1er en ajoutant « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». Une proposition semble bien partie pour être soumise à référendum, celle qui concerne la rénovation globale obligatoire du bâti, mesure de justice sociale s'il en est, puisqu'elle concerne la population la plus précaire. Les 150 citoyens proposent de rendre obligatoire la rénovation thermique des bâtiments les plus énergivores d'ici 2030, plus aucune passoire thermique d'ici 10 ans et une rénovation plus large obligatoire d'ici 2040, un grand chantier national qui permettrait de créer des milliers d'emplois dans le bâtiment. Les citoyens proposent aussi de légiférer sur le crime d'écocide, un crime qui punirait les actions ayant, je cite, « causé un dommage écologique grave » avec des sanctions dissuasives. Les sanctions pourraient aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Parmi les autres propositions, l'interdiction des pesticides les plus dangereux d'ici 2035, l'instauration d'une taxe sur les dividendes pour financer la transition écologique, une réduction du temps de travail ou encore la baisse de la vitesse sur les autoroutes, pas plus de 110 km/h.
Les 27 dirigeants européens planchent ce matin sur le plan de relance de la Commission de Bruxelles, évalué, on le sait, à 750 milliards d'euros. Un sommet à distance où chacun va devoir affiner ses objectifs. Aucune décision n'est attendue ce soir. L'Élysée parle d'ailleurs d'un tour de chauffe avant de nouvelles discussions au mois de juillet. 900 000 suppressions d'emplois en France d'ici la fin de l'année. Voilà ce que prévoit l'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage, devra indemniser plus de 600 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. L'UNEDIC évoque un déficit inédit pour 2020 et une dette cumulée qui va dépasser les 63 milliards d'euros. Combattue par l'opposition, mais aussi par de nombreuses associations du net, la loi contre la haine en ligne a été censurée hier par le Conseil constitutionnel. Il considère que le cœur de ce texte porte atteinte à la liberté d'expression. Dans la soirée, le gouvernement a fait savoir qu'il prenait acte de cette décision et qu'il allait retravailler ce dispositif porté, on le sait, par la députée Laetitia Avia. YouTube accusé de discrimination, la plateforme vidéo de Google est dans le collimateur d'un groupe d'artistes noirs. Les plaignants veulent un procès. Ils viennent de saisir pour cela une cour fédérale californienne. Et puis toujours aux États-Unis, on retiendra que la Cour suprême valide le statut temporaire accordé par Barack Obama aux jeunes immigrés arrivés illégalement dans le pays avec leurs parents. C'est un nouveau camouflet pour Donald Trump qui voulait supprimer ce dispositif censé protéger quelques 700 000 personnes. Les magistrats ont considéré que la décision de Donald Trump était capricieuse et arbitraire. Montrée du doigt pour son interventionnisme en Libye, la Turquie vient de lancer cette semaine une nouvelle offensive militaire contre les rebelles kurdes installés dans le nord de l'Irak. De quoi provoquer la colère de Bagdad qui parle de provocation, de quoi inquiéter aussi les Européens. Bertrand Galichet.
Pour la deuxième fois cette semaine, l'ambassadeur de Turquie à Bagdad a été convoqué hier au ministère irakien des Affaires étrangères, qui appelle les Turcs à retirer leurs soldats infiltrés en Irak. Une réaction à l'opération militaire entamée la veille, à l'aide de commandos transportés par hélicoptère, aux confins de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie, contre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan. Le président turc Recep Tayyip Erdogan voudrait que le PKK soit expulsé du territoire irakien. Cette offensive s'inscrit dans une activité militaro-diplomatique tous azimuts, qui vise à étendre l'influence régionale de la Turquie. En Libye, Ankara s'est engagée militairement aux côtés du gouvernement de Tripoli. Les Européens menés par la France viennent d'obtenir de l'OTAN l'ouverture d'une enquête sur un incident ayant opposé le 10 juin dernier la marine turque à un bâtiment français qui a été menacé à 3 reprises par un repérage de tir lors d'une tentative de contrôle en Méditerranée d'un cargo suspecté de violer l'embargo sur les armes. Par la voix de Florence Parly, la France hausse le ton, dénonçant un acte extrêmement agressif. Mais au sein de l'OTAN, seuls les États-Unis, pour l'instant peu décidés à intervenir, pourraient infléchir l'attitude de la Turquie.
Les averses sur le nord de la France, mais aussi sur les reliefs des Pyrénées. Le mauvais temps gagnera l'est du pays au fil de la journée. Les nuages seront nombreux sur le pays, sauf sur les bords de la Méditerranée, où le ciel sera là-bas bien dégagé. Les températures de 8 à 17 degrés ce matin, de 17 à 25 degrés cet après-midi. Gabriel Olivier Aguillon.
Merci beaucoup Olivier Denré. Bon week-end.
Bon week-end à vous, bonne émission demain.
Merci. Au piano, Jeff Cohen et la mezzo-soprano Béatrice Auria Manzone dans Crépuscule, l'une des mélodies du cycle La chanson d'Ève de Gabriel Fauré qu'il compose entre 1906 et 1910. Béatrice Ouria Manzon, l'une des artistes que vous pourrez voir et écouter demain, samedi 20 juin, sur France 5. Car oui, vous le savez peut-être, chaque année, France Musique organise avec France Télévisions, le 20 juin, au Corégie d'Orange, Musique en fête. Un événement annulé ce week-end, mais une belle soirée à la télévision qui reprendra les meilleurs moments des années précédentes. L'émission sera diffusée donc sur France 5 à 22h25 dans Passage des Arts, présenté par Claire Chazal, de grands artistes. Artiste lyrique Béatrice Ouria Manzon, donc, mais aussi Roberto Alagna, Benjamin Bernheim, Julie Fuchs, Angélique Kidjo, Ruggero Raimondi ou encore Florian Sempey. Vous écoutez France Musique et nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est 8h39. C'est donc l'heure de retrouver Sophia Anastasio pour Classique Info. Bonjour Sophia.
Bonjour Gabriel.
On commence avec l'Orchestre de Paris qui a choisi son futur directeur musical.
Il s'appelle Klaus Mäkelä, il est finlandais, il n'a que 24 ans et c'est actuellement l'un des chefs les plus courtisés au monde. Depuis l'annonce du départ de Daniel Harding, l'Orchestre de Paris avait testé plusieurs chefs pour lui trouver un remplaçant. La prise de fonction de Klaus Mäkelä se fera en deux étapes. Il deviendra d'abord conseiller musical de l'Orchestre de Paris à partir du 1er septembre prochain, avant d'en devenir directeur musical à partir de 2022. Il est également chef principal de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo.
Le Royaume-Uni rend hommage à Vera Lynn.
La chanteuse britannique nous a quittés à l'âge de 103 ans. Son célèbre titre « We Will Meet Again », destiné à remonter le moral des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale, avait connu une deuxième jeunesse pendant le confinement. Des jours meilleurs viendront.
La filière musicale évalue ses pertes à 4,5 milliards d'euros en 2020, Sophia.
Ces données ont été rendues publiques par l'association Tous pour la musique. Les activités les plus touchées sont celles du spectacle de musiques actuelles et de variétés, avec des pertes qui représentent 83% de leur chiffre d'affaires prévisionnel en 2020. Avec plus de 4300 annulations, les spectacles de musique classique et de création sont également fortement touchés.
Un peu de joie, Sophia. Maintenant, c'est la fête de la musique ce dimanche.
Une fête en grande partie numérique. Pour rappel, les concerts spontanés dans la rue ne sont pas autorisés. La ville de Besançon, par exemple, propose depuis des semaines aux chanteurs et musiciens d'envoyer leurs performances en vidéo afin de les diffuser. Le chœur d'Angers-Nantes Opéra a préparé une surprise pour s'éveiller avec une salutation lyrique au soleil qui sera dévoilée dès 6h du matin ce dimanche sur Internet. Il y aura aussi quelques concerts en extérieur avec autorisation. À Paris, par exemple, le Paris Mozart Orchestra organisera 4 concerts dans la cour d'honneur de la mairie du 9e arrondissement. Ce sera également l'occasion pour certaines institutions de retrouver leur public ce week-end, la Philharmonie de Paris, avec des activités en plein air et un concert de Katia Bouniatichvili entourée d'enfants de Demos, ou encore l'Opéra de Bordeaux.
Sans oublier dimanche, la soirée organisée sur France Musique à partir de 20h. Et juste avant la fête de la musique, ce samedi demain donc, c'est le Disquaire Day.
La fête des disquaires indépendants est pour la première fois. Un disque classique participe et réserve son exclusivité à cette manifestation. Il s'agit d'un enregistrement consacré à Beethoven de la violoncelliste Sonia Vider-Atherton.
Et toutes ces informations sont à retrouver sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. Merci beaucoup Sophia. Bon week-end.
Bon week-end, à lundi.
À lundi.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer !
Je connaissais pas celui-là. C'est le tout premier disque solo du multi-instrumentiste Mathieu Delage. Mais ici, c'est sur son instrument fétiche que nous le retrouvons, le saxophone baryton. Également compositeur et improvisateur hors pair, il publie ce disque intitulé Inner Voice, sorti aujourd'hui même sur le label Chapeau l'Artiste. Mathieu Delage, donc au saxophone baryton. On y trouve des transcriptions pour sax et piano faites par le musicien, de la musique de Saint-Saëns, Schumann et Rachmaninoff, mais aussi des musiques d'aujourd'hui, grâce aux compositeurs Mathieu Stefanelli, Patrick Zimmerli et une œuvre de Mathieu Delage lui-même. Le prélude, tiré du prélude et danse orientale opus 2, a été écrite par Rachmaninoff pour violoncelle et piano. C'est donc une version revisitée par Mathieu Delage. Justement, c'est donc la nouveauté du jour sur France Musique.
Thank you.
À 8h47 sur France Musique, Mathieu Delage au saxophone baryton et Magali Albertini au piano dans le prélude des deux pièces, prélude et danse orientale opus 2 de Rachmaninoff, un extrait du tout nouveau disque de Mathieu Delage, paru chez Chapeau, l'artiste, disque intitulé Inner Voice. 8h47, il est l'heure de retrouver notre invité.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Gabriel Oliveira Guyon.
Bonjour Clément Mao-Takatch.
Bonjour Gabriela.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes chef d'orchestre, pianiste et compositeur. Vous avez fondé en 2011 votre propre orchestre, le Sécession Orchestra. Et justement, un orchestre avec qui vous serez en concert lors de votre festival, le festival Terraquet à Carnac, qui aura lieu du 27 août au 13 septembre. Des concerts donc maintenus. Où concrètement auront lieu ces concerts, Clément Mao-Takatch?
Ces concerts auront lieu à Carnac, dans le Morbihan, qui est l'une de mes patries d'enfance et auxquelles je suis attaché par des liens de ma famille paternelle. Et ils auront lieu eh bien, dans différents endroits, comme chaque année, puisque le festival rayonne dans la très jolie couronne de différentes chapelles qui forment le patrimoine carnacois. Et évidemment, en tout premier lieu, il y aura l'église Saint-Cornélie qui a une fort bonne acoustique et qui peut accueillir un certain nombre de musiciens. Donc voilà, il y aura tous les soirs en Saint-Cornélie un grand concert symphonique et chaque jour des récitals de musique de chambre dans les autres chapelles.
Il y a un vrai ancrage territorial hein, qui se fait au cœur de ce patrimoine exceptionnel, entre mer et terre.
Entre mer et terre, c'est le mot terraquet, un vieux mot en français qui est employé quand même par Go et Proust et qui veut dire littéralement de terre et d'eau. Et c'est vrai que c'est un vrai ancrage territorial pour nous parce que c'est un peu la résidence d'été de l'orchestre. On prépare notre laboratoire de concerts de la saison, de programmes là-bas. Les Carnacois ont la chance de l'avoir un peu en avant-première et puis c'est aussi l'occasion de réunir un peu toute ce qu'on appelle notre famille d'artistes, c'est-à-dire les artistes avec lesquels on aime travailler.
Alors justement au niveau des artistes, est-ce que vous avez prévu pour cette année un peu particulière des effectifs plus petits pour la programmation ?
Précisément non. Justement, on a décidé d'aller contre la morosité ambiante. Mmh. On aurait pu parfaitement le faire parce que c'est une des spécificités de ces sessions orchestrales de pouvoir jouer le grand répertoire à 15, 20, 30 musiciens. Mais on a choisi justement qu'en cette année 2020, qui était déjà assez morose et assez sinistrée, on avait au contraire besoin d'entendre la musique symphonique, d'entendre du Beethoven, d'entendre du Weill, d'entendre du Mahler, d'entendre du Mozart, d'entendre tout ce qui nous fait vivre, nous musiciens, et ce qui fait palpiter aussi, je crois, le public. Évidemment, tout ça se fait sous le contrôle de notre directeur technique et avec tout le respect des contraintes sanitaires encore en vigueur, mais on a déjà trouvé plusieurs dispositifs qui nous permettront justement de conserver un concert symphonique avec la 7e de Beethoven sans aucune réduction d'effectifs.
C'est un festival, Clément Mao-Takatch, que vous avez fondé en 2017, c'est donc la 4e édition, avec l'idée de proposer des formats, des formules, une économie, peut-être même un écosystème qui tranche un peu avec d'autres. Quelles sont les grandes lignes éditoriales de votre volonté avec ce rendez-vous musical?
Disons que, étant moi-même souvent invité dans des grands festivals, je vous parle depuis Aix-en-Provence, par exemple, qui est quand même le grand festival d'art lyrique en France.
Oui, vous préparez un opéra de Kaya Sarayao, c'est ça, son nouvel opéra.
Exactement, Innocence. Si vous voulez, je me suis rendu compte que dans l'économie et l'écosystème de la musique classique, il y avait quand même une forme de complexité. Et notamment, on a vu à quel point on était bloqué un petit peu par des logiques économiques, des logiques internationales. Dès qu'il n'y a plus de transport aérien, dès qu'il n'y a plus tout ce qui constitue notre quotidien et qu'on est habitué finalement à considérer comme naturel et allant de soi. Et c'est vrai que déjà il y a 3 ans, on a commencé à mettre en place ce festival, ainsi que l'autre festival qui se développe en Île-de-France, Intervalle, sur l'idée qu'on voulait justement avoir une dynamique différente, un choix d'interprétation différent, un choix de rapport au public différent, parce que je trouve que de plus en plus dans les salons, on s'éloigne du public, on n'a plus de contact, nous, artistes, avec le public, à part au moment du concert, et je trouve que c'est un petit peu dommage. On essaye justement de rétablir ce lien-là. Ça passe évidemment par de la médiation, mais sous des formes très très diverses. Ça passe évidemment par une multiplicité, une diversité du public, et puis par essayer aussi de permettre à des artistes qui sont pas toujours engagés dans les grandes maisons dans des premiers rôles, de pouvoir tester des premiers rôles, donner à un chanteur ou une chanteuse sa première Isolde, sa première Butterfly, son premier Hollandais volant. Ça peut être quand même très utile, notamment quand on a la possibilité de le faire avec orchestre.
Bien sûr. Alors, on peut citer quelques artistes, Axel Fagnot, Marie-Laure Garnier, Marion Lebec, et puis aussi du monde du théâtre et de la mise en scène. Un peu des concerts expériences, on le sait, et puis vous en avez parlé, l'année 2020, elle subit un vrai bouleversement de notre rapport à l'art et à la culture. Est-ce que votre programmation a été repensée en fonction de l'actualité, des concerts peut-être qui feront écho à ce qu'on vit ?
Je ne dirais jamais une œuvre sans la relier à l'actualité. Une marque de fabrique, mais c'est quelque chose qui pour moi fait sens aujourd'hui. Diriger un concert juste comme si j'étais sans nuance péjorative, mais un simple conservateur de musée qui sortirait pour vous la toile et qui vous la montrerait froidement. N'importe quel conservateur de musée vous dira aujourd'hui que non, une œuvre, on la montre, on la recontextualise, on regarde ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, on voit comment elle a vieilli ou comment on peut justement éventuellement la conserver ou la restaurer. C'est un peu aussi le geste qu'on doit faire aujourd'hui. Et évidemment, dans la programmation, on a conservé des points d'ancrage très forts. Je crois que de toute façon, on aura besoin tous d'un temps presque rituelique pour penser à nos morts et réussir à digérer cette période qui a été quand même assez douloureuse pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu beaucoup de pertes humaines et aussi de stress tout simplement pour la population. Et puis je crois aussi qu'il y a des œuvres, je prends l'exemple de La Mort à Venise par exemple, qui lorsque vous lisez, que vous revoyez le film de Visconti, vous voyez à quel point certaines paroles étaient celles qu'on entendait pendant le confinement, par exemple. Des paroles d'incertitude par rapport à une épidémie, des paroles d'angoisse, des paroles de que faire, rester, partir. Ce sont des thèmes qu'on va aussi explorer, tout en les liant aussi avec des thèmes qui sont ceux de notre société. Par exemple, il y aura un spectacle mis en scène par le metteur en scène Alexis Barrière, avec lequel je collabore maintenant depuis 10 ans, dans le cadre de la Chambre aux Échos, la compagnie que nous avons créée. Et ce spectacle, Révolte, centré autour de Egmont de Beethoven, pour lequel Beethoven a écrit une musique de scène, eh bien, sera l'occasion justement de nous interroger dans un paysage quand même français où nous avons connu et nous allons peut-être connaître encore différentes formes de révolte, et peut-être dans un monde où nous avons besoin aussi de nous révolter contre certaines formes d'oppression. Eh bien, je crois que ce sera l'occasion justement de nous interroger collectivement sur ces questions d'actualité, mais qui en fait sont de tout temps aussi.
L'actualité, Clément Mao-Takac, elle vaut aussi pour vraiment le statut des artistes. Vous vous êtes exprimé sur les réseaux sociaux. Vous avez imaginé pendant cette crise sanitaire, peut-être même avant, un nouveau statut pour les artistes, repenser la vie musicale, on l'entend dans vos propos. Quelles sont, en quelques mots, vos réflexions, vos propositions pour faire évoluer l'intermittence du spectacle ?
J'ai simplement songé, étant intermittent moi-même, et voyant à quel point, pendant la crise, nous étions tous confrontés, les grands solistes, les chefs d'orchestre, les intermittents, les indépendants, les titulaires, au même problème d'arrêt finalement vital de nos métiers, que nous n'étions pas assez représentés, que nous n'existions pas finalement réellement légalement. Et je pense que quelque chose qui serait très beau, très fort, ce serait de trouver un statut qui justement permettrait de faire évoluer celui de l'intermittence, qui demeure quand même dans le domaine de la demande d'emploi, et de nous faire évoluer vers un statut du musicien et de la musicienne professionnelle qui, quelle que soit notre notoriété, notre degré de notoriété et de carrière, nous réunirait et nous donnerait une existence légale au sein de la société. Et puis évidemment, ce statut pourrait même évoluer et être étendu, moi, je le souhaiterais volontiers, à l'ensemble des artisans du spectacle vivant. Et ça pourrait même être une sorte de socle de petits laboratoires, et je pense que la musique et l'art peuvent servir aussi de laboratoire pour une société, pour éventuellement penser peut-être certains schémas, certains modèles économiques qui pourraient être ceux de demain pour l'ensemble de la société, ou en tout cas de certaines corporations.
Merci beaucoup Clément Mao Takatch. Je rappelle les dates de votre festival Terraqué à Carnac du 27 août au 13 septembre. Vous y serez avec le Sécession Orchestra. Entre autres, nous vous écoutons là, vous, avec le Sécession Orchestra et Jonas Vito au piano dans l'Andante Manon Tropo de la Fantaisie de Claude Debussy. Un grand merci.
Merci, au revoir.
Je vous souhaite une belle journée, au revoir. Petit extrait de l'Andante Manon Tropo de la Fantaisie de Claude Debussy par Jonas Vito au piano, le Sécession Orchestra et Clément Mao Takatch à la direction. C'est la fin de Musique Matin, 8h58. Xavier Atto et Emmanuel Dupuis étaient à la technique. Yacine Bouzard à la réalisation. Marion Guimet avec Taïsia Froidur, Margot Muller qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vous retrouverez Jean-Baptiste Urbain dès lundi à 8h. Quant à moi, je vous retrouve demain à 9h pour France Musique. Et à vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous laisse dans les mains d'Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Gabriel.
On va ouvrir cette émission avec quelques concertos pour piano de Carl-Philippe Emmanuel Bach, et c'est Michael Richeux qui les interprète. C'est la suite d'une intégrale.
Merci beaucoup, bonne émission.
À demain. À bientôt. Oui, enfin, allez. À demain à 9h déjà.
À réécouter sur francemusique.fr.